SBS Audio is supported by advertising.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Cammeraygal de la nation Gurindjai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit de Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio SBS. Je m'appelle Grégory Pless et c'est moi aujourd'hui qui ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Alors le mardi, vous le savez, c'est le jour où on fait le point sur la semaine politique en Australie. On va s'intéresser aujourd'hui au contre-budget présenté par le leader de l'opposition, Peter Dutton. On reviendra également sur une belle initiative dimanche dernier à Sydney, un pique-nique solidaire qui a rassemblé une partie de la communauté néo-calédonienne au jardin botanique. Et puis en fin d'émission, on va parler cuisine, plus précisément de cuisine franco-africaine, avec la chef Corinne Crouzet, que Bertrand Tungandamé a pu rencontrer. Mais tout d'abord, place à l'actu, c'est l'heure du journal. À la une de l'actualité de ce mardi 21 mai 2024. 9 jours après le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie, le climat reste abrasif sur place, mais les autorités notent malgré tout un relatif retour au calme, favorisé notamment par les importants renforts militaires envoyés depuis la France. L'aéroport de la Tontuta à Nouméa restera fermé jusqu'à au moins jeudi matin, mais les diplomaties australiennes et néo-zélandaises ont annoncé ce matin qu'elles avaient enfin reçu le feu vert de Paris pour y envoyer des avions militaires qui permettront de rapatrier leurs ressortissants. Et puis, une petite victoire pour Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, puisque la justice britannique l'a autorisé à faire appel de son extradition vers les États-Unis, où il encourt jusqu'à 175 années de prison. En Nouvelle-Calédonie, 9 jours après le début des émeutes, le retour au calme commence à se concrétiser. D'après le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, il a annoncé aujourd'hui le déploiement de moyens militaires pour sécuriser les bâtiments publics et l'arrivée de 600 effectifs supplémentaires depuis la métropole dans les prochaines heures pour compléter cette opération de sécurisation. Pour le président Emmanuel Macron, la situation sur place est, je cite, « en net progrès », mais son premier ministre, Gabriel Attal, estime pour sa part qu'il reste encore du chemin avant le retour à la normale. Deux discours légèrement divergents et bien résumés par Marie Guévenou, la ministre des Outre-mer. Elle s'est exprimée sur France Inter.
Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, la situation s'améliore, mais évidemment reste très précaire. Aujourd'hui, nous avons 2700 forces de l'ordre qui ont été envoyées sur place. Vous avez vu qu'il y a une opération de police, de déblaiement, de levage des barrages, de 76 barrages sur cette route qui relie Nouméa à l'aéroport. Si les barrages ont été levés, il en résulte maintenant la nécessité pour les forces de sécurité civile de venir déblayer les routes qui sont envahies de carcasses de voitures, d'un certain nombre de choses, de façon à permettre l'acheminement et puis ensuite de ne pas voir leur reconstitution de barrage. Tous les moyens seront mis pour faire en sorte de rétablir l'ordre et le calme en Nouvelle-Calédonie. Donc s'il y a des renforts qui sont nécessaires, et il y en a d'ores et déjà qui ont été identifiés, ils seront envoyés.
Et concernant spécifiquement l'aéroport international de la Tontuta, les vols commerciaux y restent suspendus jusqu'à jeudi matin, date à laquelle la situation sera réévaluée, a précisé ce matin le Haut-Commissariat de la République. En revanche, une bonne nouvelle pour les ressortissants australiens et néo-zélandais coincés en Nouvelle-Calédonie. Les gouvernements australiens et néo-zélandais donc ont en effet obtenu enfin le feu vert des autorités françaises, ils le réclamaient depuis plusieurs jours, pour envoyer des avions militaires sur place afin de rapatrier donc leurs ressortissants. Penny Wong, la chef de la diplomatie australienne, a ainsi annoncé le départ aujourd'hui de deux avions en direction de Nouméa. Elle a précisé que les passagers aux besoins les plus pressants seront priorisés pour ces vols de retour vers l'Australie. Pour ce qui est des Calédoniens toujours bloqués, eux, en Australie, je vous rappelle que dimanche, le consul général de France a adressé à l'ensemble de la communauté française un appel à la solidarité. 230 personnes ont ainsi proposé une solution d'accueil à leur domicile et l'association French Assist a pour sa part déjà récolté un peu plus de 6 500 $ auprès de particuliers, des fonds qui doivent servir à fournir de l'aide alimentaire ou à répondre à des besoins médicaux. C'est une annonce qui a suscité de très vives réactions sur la scène internationale. Deux hauts responsables israéliens et trois du Hamas sont dans le collimateur du procureur de la Cour pénale internationale. Karim Khan, c'est donc lui le procureur, a en effet demandé l'émission de 5 mandats d'arrêt ciblant le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou, son ministre de la Défense, mais aussi les trois principaux dirigeants du Hamas. Il accuse les cinq de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis dans la bande de Gaza. Alors comment va se dérouler la suite de ce processus? On écoute les explications de François Dubuisson, professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles. Il s'est exprimé à l'antenne de notre partenaire Radio France Internationale.
Généralement, ça prend quelques semaines. En tout cas, si on prend comme exemple le cas de Vladimir Poutine, la chambre préliminaire avait mis un peu plus de 3 semaines à rendre sa décision, donc ça pourrait intervenir relativement vite. Et la chambre préliminaire va surtout examiner si les preuves qui sont fournies sont suffisamment substantielles, suffisamment convaincantes pour en tout cas confirmer le lancement d'un mandat d'arrêt. En l'occurrence, on peut penser que le procureur a pris toutes les précautions nécessaires pour que les preuves soient suffisantes et substantielles. Et il a indiqué d'ailleurs s'être entouré de manière tout à fait spécifique par un ensemble d'experts internationaux pour à la fois aborder les questions de droit international, mais aussi vérifier la véracité des preuves. Donc probablement que le dossier doit être assez solide et pourrait être confirmé par la chambre préliminaire.
En Iran, la succession d'Ebrahim Raisi commence à s'organiser. Le président iranien, mort dimanche dans un accident d'hélicoptère, sera remplacé à l'issue d'élections qui se tiendront le 28 juin prochain. C'est ce qu'ont annoncé les autorités judiciaires iraniennes. À la suite de ce décès, de nombreux dirigeants un peu partout dans le monde ont adressé des messages de condoléances, y compris depuis des pays, entretenant pourtant des relations très tendues avec le régime de Téhéran. Une démarche pas toujours comprise et même parfois très vivement critiquée, en particulier en Europe. On fait le point avec Laure Broulard à Bruxelles pour RFI.
Plusieurs personnalités européennes ont exprimé leur indignation sur X, anciennement Twitter. Honte à vous, écrit ainsi l'eurodéputé suédois David Lega, qui demande aux dirigeants européens s'ils peuvent regarder dans les yeux les courageuses femmes et combattants de la liberté d'Iran. Réaction également de l'ancien secrétaire d'État belge, Théo Franken, qui dénonce des condoléances européennes pour la mort d'un boucher cruel et d'un meurtrier de masse. Ebrahim Raisi était considéré comme l'un des piliers du camp conservateur à Téhéran et figurait sur la liste noire américaine des responsables iraniens sanctionnés pour complicité de graves violations des droits humains. Les internautes pointent également du doigt l'activation hier du système européen Copernicus de cartographie pour aider l'Iran à retrouver l'hélicoptère du président décédé. Une opération annoncée via le hashtag Solidarité de l'UE est défendue aujourd'hui par le commissaire européen en charge de l'humanitaire, Yanis Lenarčič. Ce n'est pas un acte de soutien politique à un régime, mais simplement l'expression de l'humanité la plus élémentaire, a-t-il déclaré. Laure Broulard, Bruxelles, RFI.
Et c'est une petite victoire pour Julian Assange et ses partisans. La Haute Cour de Londres a en effet accepté que le fondateur australien de Wikileaks fasse appel de son extradition vers les États-Unis, où il encourt jusqu'à 175 années de prison pour espionnage. Les juges britanniques auraient en effet estimé que Washington ne pouvait garantir qu'il ne serait pas condamné à mort, ni que sa liberté d'expression serait assurée. C'est en tout cas ce qu'ont expliqué les avocats de Julian Assange. Son épouse Stella a pu échanger avec lui à l'issue de l'audience à laquelle il n'a pas assisté en raison de son état de santé. Elle l'a rencontré là où il est détenu, à la prison de Belmarsh, et voici ce qu'elle a confié à son sujet.
He was obviously relieved, he hadn't slept all night and he's under enormous pressure. It's hard for all of us, but just imagine what it's like for Julian, who has been in Belmarsh for over 5 years and who has had to endure this grueling process from inside his cell and isolated from everyone and from a distance. So it's a very good sign today.
Rien ne va plus entre l'Argentine et l'Espagne. Dimanche, Madrid a rappelé son ambassadeur à Buenos Aires après des propos jugés insultants du président argentin Javier Milei à l'égard de la femme du premier ministre espagnol Pedro Sanchez. C'est celui qu'on surnomme le Trump de la Pampa, a refusé de s'excuser et en a même, à vrai dire, remis une couche. À Buenos Aires, le récit de Théo Conscience pour RFI.
Conscience. Le président argentin a continué à jeter de l'huile sur le feu ce matin en affirmant sur les réseaux sociaux, je cite, qu'il surfait sur une vague de larmes socialistes en référence à la réaction du gouvernement de Pedro Sanchez. Après une première passe d'armes diplomatiques il y a 15 jours, Javier Milei est venu en Espagne ce week-end, pas pour rencontrer les autorités du pays, mais pour participer à un événement organisé par le parti d'extrême droite Vox. Pendant son discours, le président argentin s'en est pris sans la nommer, mais de façon très claire à la femme de Pedro Sanchez, en l'accusant de corruption. Réaction immédiate du gouvernement espagnol qui a rappelé son ambassadrice à Buenos Aires pour consultation, convoqué l'ambassadeur argentin en Espagne et qui a exigé des excuses publiques du président argentin en laissant planer la menace d'une rupture des relations diplomatiques. Une perspective balayée ce matin par le porte-parole de la présidence argentine qui a estimé que Javier Milei n'avait aucune raison de s'excuser et que cette crise était en réalité une affaire personnelle entre le chef d'État argentin et le premier ministre espagnol qui n'avait pas vocation à affecter les relations diplomatiques entre les deux pays. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Telstra, le leader australien des télécommunications, a annoncé aujourd'hui qu'il allait supprimer 2800 emplois d'ici à la fin de l'année. Un coup de rabot justifié par la PDG du groupe, Vicky Brady, par la nécessité d'accroître la productivité de l'entreprise et de simplifier ses opérations. Elle compte en parallèle investir pour accroître les capacités de l'opérateur téléphonique à traiter d'importants volumes de données, mais aussi pour améliorer la connectivité à travers l'Australie. Ni les syndicats ni les employés n'avaient été prévenus de ce plan social, mais Vicky Brady a ajouté que les premières consultations vont commencer aujourd'hui, et ce alors qu'une première vague de licenciements portant sur 377 emplois va être enclenchée.
We will continue to work through the detail as fast as we can on the remaining proposed changes, and I anticipate being able to update our employees around mid-July. As part of our ongoing work to reduce our costs, we will also focus on other cost categories, including non-labour related costs.
L'Australie, un des plus grands producteurs et exportateurs d'énergie fossile au monde, risque-t-il le blackout ? C'est ce que craint l'AEMO, le régulateur australien de l'énergie, qui relève dans son dernier rapport que la fermeture de plus de 60% des centrales à charbon du pays d'ici à 2033 pose un vrai problème dans la mesure où plusieurs projets de génération d'énergie, cette fois issus d'énergie renouvelable, censés prendre la suite de ces centrales, accusent d'importants retards, en particulier en Nouvelle-Galles du Sud, dans le Victoria et en Australie méridionale. Sans surprise, la sénatrice d'opposition Bridget McKenzie a profité de la publication de ce rapport pour critiquer le gouvernement travailliste sur Channel 9. Elle l'estime incapable d'atteindre les objectifs qu'il s'est lui-même fixés en la matière.
We've got particularly in Victoria and New South Wales having to purchase emergency energy supplies. That's not cheap, so your power supply is going to go up.
not down. And what they also said was that coal-fired power stations are going to stay open for longer under Labor because these renewable projects, it's not all about renewables, are being held up by environmental laws. So yeah. There's no credible plan to net zero by 2050 under Labor.
Et pour terminer ce bulletin d'information, on jette maintenant un œil à la météo du jour en Australie. 27 degrés et du soleil aujourd'hui dans le ciel de Perth. En revanche, temps couvert à Adélaïde, 17 degrés y sont attendus. 15 à Melbourne où la journée sera ponctuée par des averses. Précipitations légères mais très probables également ce mardi à Sydney où il fait 19 degrés. 24 et du soleil plus au nord, à Brisbane. Enfin, grand beau temps et 32 degrés au thermomètre aujourd'hui à Darwin.
Journal des sports, et ce week-end était la dernière journée du championnat de la Ligue 1 en France, 34e journée donc, et les résultats, Reims bat Rennes au score de 2-1, Montpellier et Lens font match nul 2-2, le Paris Saint-Germain bat Metz sur le score de 2-0, Lille et Nice font match nul 2-2, Monaco bat Nantes sur le score de 4-0, Lorient bat Clermont sur le score de 5-0, Lyon, l'énorme remontée de Lyon avec cette victoire 2-1, Lyon qui accroche l'Europe, situation inespérée au tout début de ce championnat. Je vous rappelle, pendant très longtemps, Lyon était les derniers au classement. Retour inespéré et qualification pour l'Europe pour Lyon. Donc après cette victoire 2-1. Brest également, un très belle histoire cette année. Brest qui bat Toulouse au score de 3-0. Et Brest qui se qualifie pour la première phase de la Champions League. Et oui, le club brestois, le club breton, jouera donc dans les plus hautes sphères de l'Europe l'année prochaine. Et Marseille, pour son dernier match donc de cette année, bat le Havre sur le score de 2-1. C'est un bel au revoir pour son entraîneur Jean-Louis Gasset qui décide de prendre sa retraite à 70 ans. On l'écoute.
C'est mon dernier match. Après, que je reste dans le football, qu'on se serve de mon expérience, mes idées, mes réseaux, c'est une possibilité parce que je ne sais pas jardiner. Donc, j'aurai rien à faire. Donc, autant que je donne mon temps aux choses que je maîtrise, mes entraîneurs, c'est terminé. Je voulais finir en beauté. C'est un honneur pour moi d'avoir entraîné l'OM. Franchement, j'ai passé des moments... Au Vélodrome, là, j'ai fait 4-5 matchs où j'ai eu la chair de poule.
Jean-Louis Gasset, donc l'entraîneur de Marseille, qui prend sa retraite. Retraite, vous l'aurez compris, des bandes et d'entraîneurs, mais non pas forcément une retraite du sport en lui-même. En Ligue 2, on connaît les qualifiés. Donc, à la montée en Ligue 1, Auxerre qui bat Concarneau sur le score de 4-1. Mais le titre d'Auxerre était déjà gagné au préalable. Donc, Auxerre, vainqueur de cette Ligue 2. Et donc qui jouera en Ligue 1 l'année prochaine. Et une très belle histoire, celle d'Angers également, puisqu'Angers se qualifie pour la Ligue 1 donc après un match nul 0-0. Et bien on va écouter l'entraîneur d'Angers, Alexandre Dujeux. Il dédie cette victoire, il rend hommage à sa femme qu'il a perdue cette année subitement, Alexandre Dujeux.
On a l'envie d'aller au bout, ne pas gâcher notre travail. On a une période difficile, que ce soit sportive et une période aussi personnelle pour moi, quand vous perdez votre épouse. D'ailleurs, je lui dédie, alors c'est pas grand-chose, une accession, mais en tout cas, je lui dédie. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. J'aurais tellement aimé qu'elle soit avec moi. Ça me fait très mal qu'elle soit pas là. Mais en tout cas, par tout ce qu'on est passé, se relever sur les 9 dernières journées, faire 20 points, c'est un exploit. Je pense que sur l'ensemble, ce groupe a mérité quand même l'accession. Je souhaite bonne chance à Saint-Etienne pour les barrages parce que c'est très très dur les barrages. Nous on est content ce soir de pouvoir y aller directement parce que on est fatigué.
Alexandre Dujeux, donc l'entraîneur d'Angers qui retrouve la Ligue 1 en France. On reste en France sur le football et les Lyonnaises sont championnes de France après avoir battu le Paris Saint-Germain chez elles au Groupama Stadium à Lyon. On écoute Melky Dumornay, l'attaquante lyonnaise.
Je pense qu'on mérite cette victoire largement. Déjà, on est chez nous. C'était inacceptable que les Parisiens n'ont pas de ce trophée. On a su apprendre nos derniers matchs, notamment le match fort. On a su faire les choses dès le premier mi-temps. À la fin du match, c'était leur temps fort. Et nous, on a su nous adapter et à bien défendre et à pas encaisser ce but pour remporter le match. Maintenant, il y aura une finale à jouer. Donc maintenant, on va bien récupérer pour cette grand trophée qui nous attend.
Et le prochain match de Lyon, c'est bien entendu la finale de la Champions League face au Barça. Ce sera à Bilbao en fin de semaine, samedi soir. On connaît les 25 joueurs sélectionnés pour l'Euro. C'est toujours du football, bien entendu. Les 25 joueurs sélectionnés par l'équipe de France. Antoine Grenier nous explique tout ça.
25 joueurs appelés. Une énorme surprise au milieu de terrain avec le retour du champion du monde 2018, N'Golo Kanté, 33 ans, et qui évolue cette saison du côté de l'Arabie Saoudite. À noter également la présence d'une jeune promesse, l'ailier du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, le Parisien buteur face à l'OGC Nice en championnat, finit fort sa saison, de quoi lui permettre de récupérer un ticket pour l'Allemagne aux yeux de son sélectionneur Didier Deschamps.
Il n'était pas là au mois de mars, il aurait pu y être. J'estimais que tout venait un peu peut-être très vite. Depuis, ce qu'il avait fait déjà très intéressant, il a fait d'autres choses depuis où il a confirmé. Et avant qu'il y en ait un au cas où qui me pose la question, c'est pas le match d'hier soir, hein. Il était sélectionné avant le match d'hier soir, hein, au cas où, quoi. Mais tant mieux pour lui. Il a cette capacité-là. Avec mon staff technique, on est en réflexion depuis le dernier rassemblement. Bradley, il a cette capacité de fulgurance, de pouvoir éliminer, créer des différences, par le dribble, la vitesse. Et de marquer des buts aussi. Avec le temps, il gagnera en efficacité certainement, une bonne aussi volume, capacité à faire les efforts aussi.
Voilà, donc Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France pour 7 euros cet été. Et ça conclut notre journal des sports pour aujourd'hui. On fait une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Vous êtes sur SBS, c'est l'émission en français. 13h28, c'est l'heure maintenant de revenir sur la semaine politique en Australie avec Patricia Meunier et Christophe Mallet.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Semaine politique, comme chaque mardi avec Patricia Meunier. Cette semaine, eh bien, le leader de l'opposition, Peter Dutton, a donné sa réponse au budget du gouvernement travailliste qui avait été présenté mardi dernier. Sa critique attaque des faiblesses du pays qui ne peuvent pas être résolues en un jour, comme notamment la crise du logement et la hausse de l'inflation. Patricia Meunier.
Réduire la migration et résoudre la crise du logement. C'est le plan de l'opposition pour remettre l'Australie sur les rails. Son chef, Peter Dutton, a ainsi donné sa critique du budget fédéral annoncé mardi dernier. On l'écoute.
In my 22 years in Parliament, I've seen good and bad budgets. But the budget handed down on Tuesday night is one of the most irresponsible I've seen. Inflation is a huge problem for Australia. On comparative inflation, Australia is worse than the US, Singapore, Germany, Spain, Japan, the Netherlands, Italy, South Korea, Canada, France and the entire euro area. The reason interest rates have gone up 12 times is because the government can't control its spending and because of its reckless energy policy. In three Labor budgets, the government has lifted spending by a staggering $315 billion or $30,000 per Australian household.
Le trésorier Jim Chalmers continue de défendre son budget. Il se montre confiant.
Well, the forecasts in the budget are about the inflation forecast and whether or not they're at the top of the band or not. The Treasury is now forecasting that we get inflation to moderate a bit faster than they were anticipating at the end of last year, and that is because the budget is designed to put downward pressure on inflation. the Reserve Bank will take its decision about interest rates independently. They'll weigh up a whole range of factors, not just the Commonwealth budget. But what we've shown, again, in the budget last night, is a willingness to be part of the solution to this high inflation rather than part of the problem. We've made good progress. Inflation had a 6 in front of it when we came to office. It now has a 3 in front of it, and the budget will help it get lower.
Selon Peter Dutton,
modifier les quotas d'immigration permanente et les restrictions imposées aux acheteurs de biens immobiliers étrangers aideront les Australiens. Il parle même de restaurer le rêve d'accession à la propriété. Peter Dutton a donc proposé une stratégie pour remettre le pays sur la bonne voie, car il est persuadé que l'objectif du gouvernement travailliste de construire 1,2 million de logements d'ici 2029 n'est pas réaliste. Son fer de lance est bien sûr de restreindre avant tout l'immigration. Il a même mis sur la table des chiffres, une réduction de la migration permanente de 25% à 140 000 personnes libérerait plus de 100 000 foyers au cours des 5 prochaines années. Il souhaite aussi réduire le nombre d'étudiants étrangers. Peter Dutton, au micro de nos confrères de ABC.
Well, there are a number of parts, obviously, that, that make up the problem that the government's created at the moment. It's obviously been a huge influx of international students. The numbers have gone up in the programs otherwise, including the refugee and humanitarian program, as well as the permanent migration program. So our proposal is to reduce each of those and to make sure that we can release housing stock, existing houses that are there already, for which there is huge demand from Australians either to rent or to purchase, and to put Australians first in terms of home ownership. And that's a very key part of the speech.
De plus, l'opposition imposerait une interdiction de 2 ans aux investisseurs étrangers et aux résidents temporaires d'acheter des maisons existantes en Australie. Du côté du marché du travail, des milliers de personnes, y compris des retraités, seraient encouragées à reprendre une activité, même de quelques heures. Les retraités australiens pourraient toucher un salaire sans réduire le paiement de leur pension. On écoute encore le leader de l'opposition.
So we can pretend that the housing can appear overnight, but it can't. Prioritize the skills list. I mean, that's an important observation, but I guess the point that I was building to otherwise is that we want to make sure that those people who may have recently retired, who won't come back into the workforce on a part-time basis because it affects their pension with the taper rate, that we've allowed in our announcement tonight for more of those people to come back in. Now, we have 15 million people in Australia of working age with many and varied skills and many who want to come back into the workforce part-time. If it's beyond the wit of big business in this country to train them up or to provide opportunity for them to fill some of those skills that you're talking about.
Au final, le gouvernement doit faire face à une véritable crise du logement et une situation tendue sur le front de l'inflation. Clairement, deux choses qui ne peuvent pas être fixées en un tour de main. Ce qui ouvre ainsi la porte aux critiques très directes des faiblesses actuelles de l'Australie.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Un mot maintenant à propos de la Nouvelle-Calédonie. Vous le savez, avec la suspension des vols commerciaux depuis maintenant plus d'une semaine à l'aéroport de Nouméa, des centaines de Néo-Calédoniens sont actuellement coincés en Australie. Ils ont heureusement très vite pu compter sur le soutien de leurs compatriotes qui résident ici. Et dimanche dernier, après une semaine marquée par l'angoisse et des nuits blanches, ils se sont retrouvés tous ensemble autour d'un pique-nique solidaire au jardin botanique de Sydney. SBS French y était également.
Monsieur, du raisin.
Merci.
Prenez la grappe, hein. Prenez la grappe. Merci.
Ils sont près d'une soixantaine en ce beau dimanche ensoleillé à s'être rassemblés au jardin botanique de Sydney autour d'un pique-nique à la bonne franquette. Qu'ils soient résidents ou bloqués en Australie, tous partagent la même angoisse. À l'image de Teiki, arrivé de Nouméa en Australie il y a seulement 3 semaines avec un visa vacances-travail.
Quand t'es à distance, c'est plus compliqué parce que tu sais qu'il y a la famille qui est là-bas, tu demandes comment ils vont. Et puis des fois, ils sont pas forcément disponibles pour te répondre. Du coup, tu te dis, bah, est-ce qu'ils ont un problème ? Donc c'est un peu compliqué à distance aussi. Enfin, j'ai eu une envie quand même de rentrer juste pour être là-bas, quoi.
Nicolas, pour sa part, revenait de vacances à Bali quand l'aéroport de Nouméa a fermé ses portes. Il est depuis hébergé par une compatriote.
Ben nous, on devait reprendre le vol le 14. Ben, on est resté devant l'aéroport 2 jours. Personne n'est... On a pu trouver un logement juste après. Après, il y a Stéphanie, celle qui s'occupe d'Air Calais ici. Celle qui nous héberge chez elle. On a de la chance de la trouver parce que... Voilà, on reste positif. Hein. C'est pas... On garde le sourire. Hein.
Cet instant de convivialité, c'est aussi un moment de soulagement qui fait du bien. Christine est ainsi arrivée hier de Paris où elle était allée voir sa fille, mais son mari, son fils et ses parents, eux, sont à Nouméa.
C'était très important. Je remercie justement les personnes qui ont organisé cela. Ça fait surtout du bien au moral et puis cette solidarité. Et j'avoue que franchement, d'être là, oui, c'est réconfortant. On est avec des Calédoniens. Ça fait un peu famille, finalement. Et ça nous rapproche de nos familles. Mais hâte de rentrer au pays et quel que soit comment on va le retrouver. Mais on a besoin de retrouver nos proches, surtout.
Un sentiment partagé par Nina, qui, elle, est venue à Sydney pour se faire soigner. Et elle voit dans ce rassemblement un beau symbole de ce qu'est normalement la Nouvelle-Calédonie.
Ce petit regroupement aujourd'hui fait du bien. Et je pense qu'il n'y a pas plus calédonien comme image aujourd'hui. Parce que c'est toute ethnie, toute couleur en fait. Et je pense que c'est ce que la Calédonie a un peu oublié, le vivre ensemble et cette multiculture, qu'on soit Kanak, Vietnamien, Chinois, Français, enfin, peu importe, on a toujours su vivre ensemble, on a toujours su partager ça, et aujourd'hui c'est cette image que j'ai, et c'est dommage que ça se passe en Australie alors que ça devrait l'être chez nous en fait.
En appui de cet élan spontané de générosité des Calédoniens d'Australie, le consul général de France a aujourd'hui lancé un appel à la solidarité s'adressant à toute la communauté française en Australie, invitée à, si elle le peut, proposer un hébergement ou une aide financière. Toutes les personnes enregistrées auprès du consulat ont dû recevoir un message cet après-midi. Allez, pour la dernière partie de notre émission, on va maintenant se mettre en appétit. Notre confrère Bertrand Tungandamé a rencontré la chef Corinne Crouzet de Coco Chef Traiteur. Elle nous parle des plats qu'elle prépare, une habile combinaison de cuisine africaine et française.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
On va parler de gastronomie franco-africaine avec Corinne Crouzet de Coco Chef Traiteur. Corinne, bienvenue sur SBS French.
Merci Bertrand.
Vous êtes chef basé à Melbourne, oui, spécialisé dans des mets franco-africains. En fait, une fusion des genres. Parlez-nous de vos spécialités et de ce que vous concoctez qui attire tant de monde.
Coco Traiteur, donc c'est un mélange de, on va dire, Afrique européen, le mélange de deux. J'utilise plus des épices africaines. J'ai fait mes cours de cuisine à Cannes en 2013. J'ai commencé à Cannes. J'ai évolué à Cannes de 2013 à 2022 parce que je suis à Melbourne depuis 2 ans. Donc c'est un mélange, c'est une fusion de deux continents, on va dire.
Les cuisines africaines, c'est souvent des genres épicés, des plats qui mélangent beaucoup de saveurs et tout. Alors que la cuisine française, quelquefois, elle peut être un peu trop tatillonne sur ce qu'elle présente. Et comment vous fusionnez les deux?
Exact, c'est ça la différence. Alors, je peux concocter un mets, on va dire, pas du foie gras, on va dire du bœuf bourguignon. Mais quand en fait tous mes plats sont personnalisés, je les ai revisités. Même un plat africain est revisité. Vous voyez, je peux faire du tièf, mais je ne veux pas faire du tièf comme le tièf sénégalais. Il sera revisité. Donc du coup, tous mes plats sont revisités. Donc il y a une petite touche africaine et une petite touche, on va dire, européenne, on va dire.
Une touche européenne, mais disons du riz jollof, comment est-ce que vous allez européaniser ça?
Le principe est le même. Je rajoute des végétaux. Peut-être que les gens ne mettent pas. Enfin, au Sénégal, on ne met pas. Je donne une touche de moi-même. Donc, je mets une petite touche de Coco Traiteur. Ça va être peut-être ce qu'on n'a pas l'habitude de mettre. Je suis désolée si je massacre le riz sénégalais, mais j'essaie de, pour que tout le monde ait accès à cette nourriture. Vous savez, la cuisine africaine, elle est très épicée. Donc, du coup, je m'arrange à ce que tout le monde puisse y avoir accès. Tout le monde peut goûter et aimer. Tout le monde ne mange pas le piment, évidemment. Donc, je m'arrange à ce que ça soit vraiment épicé, mais pas trop, et goûteux, et, pour que tout le monde aime, que tout le monde trouve son compte.
Ok, moi il y a un plat africain en tout cas qui vient d'une partie de l'Afrique que je connais très bien, dont vous êtes familier aussi, puisque bon, vous venez de pas loin de là. Le
oui.
Poulet à la moimbe, ça c'est quelque chose. Oh, quand je vais en France, en Afrique, première destination, restaurant africain, poulet à la moimbe, ça qui est, au Congo on en raffole.
Exactement.
Et comment vous allez le fusionner pour le rendre un peu plus européen, ça c'est impossible à traduire ça en cuisine européenne, ça.
Exactement. Alors déjà moi le fumé, je vais pas mettre du poulet normal, je vais d'abord le faire fumer maison. Je vais le rendre un peu plus compact, ça va pas être pareil, et je peux rajouter des épinards ou des champignons pour changer, donc pour personnaliser. Mais ça restera du poulet à la moimbe.
Ça reste. Ça
reste... il faut goûter. Il faut goûter. Je vous convainc pas, mais il faut goûter.
Et,
il faut goûter.
Non, ouais. Il faut goûter. Il faut aimer. Il faut goûter. Mais une fois qu'on a goûté, bon, on devient accro. On peut plus. On se lèche les babines, on se lèche les mains, ça c'est clair.
Exact,
parce que dans la plupart des pays africains, on mange avec les mains, on prend un morceau de foufou, on trempe dans la moimbe et voilà, on avale. Et ça fait partie aussi de l'expérience qui peut paraître exotique pour certains. Donc ça, ce sont deux mets que vous venez de nous parler de la façon dont vous arrivez à le fusionner entre donc un mets africain, vous fusionnez le genre français, mais les ingrédients, parce que les ingrédients africains, c'est bon, on va au Woolies, au Coles, à Melbourne, ou même dans n'importe quel bon dans les grandes enseignes, il y a rien, tout est, il y a pas grand chose.
Je les fais venir mes épices voyage, je les fais venir de l'Afrique.
Ça doit être coûteux ça.
Ça range, et puis là j'essaie de faire moi-même le chikwang maison, les bâtons de manioc maison, de poulet fumé maison, je fais tout maison. Donc j'arrive à trouver des produits sur place, quelques produits que j'arrive à trouver sur place et je compose avec.
Non, le chikwang, ça c'est impossible. Le chikwang, c'est avec du manioc et puis c'est emballé dans des feuilles spéciales et qu'on fait fermenter d'une façon bien spéciale.
Et oui, j'en ai fait d'ailleurs.
Et ces feuilles-là qu'on utilise, qui poussent près des fleuves, qui ont une saveur, qui donnent une saveur particulière, une certaine consistance. Vous les trouvez ici en Australie?
Non, on trouve les feuilles de bananier. Il y a toujours un plan B, donc j'utilise les feuilles de bananier. Mais le goût, je vous promets, le goût,
d'accord.
Je vous ferai goûter.
Est-ce qu'il y a un endroit où on peut se procurer vos spécialités? Parce que, bon, vous êtes traiteur, mais si on veut déguster avant de pouvoir peut-être vous inviter à faire du catering pour un événement, je dirais une fête, un mariage ou quoi.
Bien sûr.
Est-ce qu'on peut goûter, avoir une idée de ce que c'est?
Tout à fait. Donc nous avons une adresse Facebook, nous avons un numéro de téléphone WhatsApp, Instagram et une adresse mail. Coco Traiteur, traiteur avec S à la fin, @gmail.com. Ça c'est l'adresse. Et le Facebook c'est Coco Traiteur.
Dire si par exemple j'ai envie de goûter à votre chikwang, comment est-ce que je peux m'en procurer?
Je fais des dîners de dégustation chez moi. On organise des dîners de dégustation chez moi ou là où on fait les événements à Rock Band ou chez les gens, on se déplace, on va à domicile.
Et on ne peut pas vous commander une chikwang parce que vous m'avez mis l'eau à la bouche maintenant tout d'un coup.
Si, on peut. Si.
Et comment ça peut se passer à Melbourne si je peux envoyer un Uber Eats, ils vont m'envoyer de la chikwang?
Nous, on livre, hein. On livre quelques restaurants, donc on peut livrer, on se déplace, on peut livrer.
D'accord.
Et du moment qu'on est à Melbourne, donc voilà, tout est possible.
Non, mais si vous livrez pour des restaurants, est-ce que vous livrez aussi pour des particuliers?
Ah, bien sûr, oui, oui. Oui, on se déplace, on est pour les particuliers. On organise des dîners à domicile, on organise des anniversaires, des petits dîners à domicile, des fêtes. On organise tout ça.
Donc, vous organisez des événements réguliers, des journées ou soirées dégustation. Parlez-nous de ces événements et où ça se passe.
Le premier, ça s'est passé à Rockbank. Ça s'est très, très bien passé. On avait une cinquantaine de personnes. Il y avait une variété. Donc, j'avais fait un barbecue. Il y avait de tout. Bon, on pense aussi aux végétariens, donc des légumes pour les végétariens. Du poisson braisé, le porc braisé, l'agneau braisé. Bon, on dit chez nous les mabokés, donc en papillote, les mabokés. Et donc voilà, il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Ça s'est très, très bien passé. C'est pour cela qu'on organise un autre événement ce 2 mars à Rockbank pour faire plaisir à tout le monde.
Oui, d'accord. Non, parce que la cuisine de l'Afrique centrale, c'est assez spécifique, quoi. C'est des mets spécifiques et c'est une cuisine qu'il faut absolument découvrir. Parce qu'ici, on a des restaurants ghanéens, il y a des restaurants nigériens, il y a beaucoup de restaurants éthiopiens, notamment à Footscray, à Fitzroy et tout ça. Mais très peu de spécialités d'Afrique centrale.
Ah oui, ça c'est vrai. Et je fais même du ndolé. Vous voyez, vu que mon mari est camerounais, donc voilà, je fais du ndolé. On fait un peu de tout, on pense à tout le monde. Donc, je ne fais pas que la cuisine, on va dire, congolaise. Déjà, il n'y a pas les feuilles de manioc, le pondou, le saka-saka. Mais je fais du ndolé, on fait le poisson salé, donc le makayabu, sauté. On fait un peu de tout pour que tout le monde se retrouve. On est varié, la cuisine est vraiment variée.
Le makayabu, c'est le cabillaud, hein.
Exact, le bacalhau, la morue fumée.
Oui, la morue fumée, c'est bacalhau au Portugal et au Brésil.
Voilà, bacalhau au Portugal,
oui. Exact. On fait ça, non, je me souviens, lors d'un voyage, du bacalhau avec des haricots blancs ou différents mélanges.
Voilà, des pommes de terre sautées.
Non, ça c'est dégusté absolument.
On fait des jus maison aussi, donc ma signature c'est le ginger, le jus de gingembre.
Oui.
Et on fait des jus de carotte, on fait le jus de bissap, tout est fait maison. Tout est fait maison pour accompagner nos mets. Donc du coup, on fait des jus maison.
Et avant de nous quitter, peut-être un mot de la fin. Est-ce qu'il y a une chose que vous voulez ajouter à cette conversation?
Voilà, je demande juste à ce que les gens puissent venir découvrir, parce que il y a des gens qui sont peut-être réticents, qu'ils puissent venir découvrir à cette cuisine variée, on va dire la cuisine du monde, parce qu'il y a un peu de tout, il n'y a pas que les Africains, il y a de tout, honnêtement, on a des amis australiens aussi qui viennent manger. Donc du coup, j'invite aux gens de venir déguster, de venir goûter à ces mets-là, ils ne seront pas déçus.
Caroline Crozet, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. On espère vous voir bientôt à l'une de ces journées dégustation.
Bien sûr, on se dit à très bientôt, Bertrand.
On plairait tout bas, se plairait bas, senti la peau, moi c'est les corps, déjà tout ça, plairait, moi c'est plairait.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte comme d'habitude en musique avec ce morceau « Kissa » du producteur et DJ français David Walters. Prochain rendez-vous en direct, ce sera jeudi à 13h et c'est Léo Roussel qui présentera l'émission. En attendant, pensez à vous abonner à notre chaîne SBS French sur votre appli audio préférée pour ne manquer aucune de nos interviews, reportages et émissions. Passez tous une excellente après-midi, prenez soin de vous, dites à vos proches que vous les aimez et à très bientôt.
L'amour pas jamais ni tôt.
aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.